Sur le devant de la salle.
So welcome to the IDN Variant TLD program.
Bienvenue à cette session. Kim, si vous voulez commencer l'introduction, je vais vous donner une idée de l'ordre du jour et nous commencerons. Je suis Kim Davis, je suis sur l'équipe du staff des projets, moi aussi, et je suis sur l'équipe du projet. Naila Saras, Denis Michel, vice-président des initiatives stratégiques, Saman Hussein, conseiller pour les études, les expériences des utilisateurs, la personne suivante aussi est du même projet. Beaucoup de Denis Michel, beaucoup de progrès ont été faits. Et le travail important aussi reste à faire quand il s'agit des variants IDN, TLD. Une fois que ce travail sera terminé, donc en juin 2014, comme nous l'avons montré sur la diapositive qui est aussi disponible en ligne, le variant IDN avait été mis sur la table, a été établi par le board à travers une résolution 2010 pour identifier les problèmes qui étaient reliés à la délégation de la façon dont les TLD variants IDN étaient gérés dans des cas comme celui qui a été étudié entre avril 2011 et octobre de la même année. ICANN a conduit des études sur six scripts, arabe, chinois, Han, cyrillique et Devanagari, et en latin. Il a résolu que Sviltat était et secure pour utiliser donc pour les expériences des utilisateurs en novembre 2011 et 2002. Nous avons eu la phase 2. Les experts sur les deux équipes des cas d'études ont complété un rapport qui résume les plusieurs problèmes et pour la gérance de ces variants IDN, c'est TLD variant IDN, dans la zone racine du DNS et offert des recommandations pour identifier des solutions potentielles. Aucune des variants n'ont été retenues comme des options faisables, excusez-moi. La phase 3, qui est la phase courante, qui va de février 2012 au mois d'avril 2013, inclut trois projets séparés. Le premier projet, c'est le RGA2 pour développer des outils standards pour faire la liste des points de code de variants pour le DNS. La prochaine phase est la procédure de LGR de la racine qui commence en mars à développer les procédures pour populer et utiliser les caractères d'unicorn ou unicode et les points code dans les racines et relier des caractères regardant les IDN TLD. Le troisième projet, c'est l'étude des expériences des utilisateurs sur les TLD variants IDN. C'est l'étude qui s'est concentrée sur la compréhension des applications, examiner les défis potentiels et proposer des recommandations pour les utilisateurs Et nous espérons que cela va se traduire dans les provisions dans les contractuelles. La phase 4 qui va arriver, puisque que nous allons accélérer d'ailleurs, cela, il s'agit de fournir des solutions dans des endroits clés. Le premier projet dans la phase 3, c'est de mettre en place un panel d'intégration et des matériaux, des panneaux de génération pour des matériaux pour la génération de panneaux, de panels en préparation pour la population du LGR dans la racine. Les nouveaux projets est une mise à jour des nouveaux GTLD et des programmes CCTLD et IDN. Le troisième aspect est la mise à jour de ICANN-YANA, des processus ICANN-YANA et des systèmes pour mettre en place des échanges spécifiés dans le nouveau GTLD et l'IDN, les programmes CCTLD et IDN. Encore une fois, nous ciblons juin-juillet 2014 pour compléter ce travail. C'est une idée générale pour voir où on en est au niveau du travail pour compléter le programme de variants IDN et le travail à venir. Aujourd'hui, nous allons présenter les projets qui ont été complétés dans la phase 3 et ensuite nous parlerons des procédures le développement et la maintenance de règlements de génération d'étiquetage pour la zone de racine DNS en ce qui s'agit probablement de l'étiquetage IDNA. Et ensuite, nous discuterons, nous examinerons l'expérience des utilisateurs des projets variantes TDD actives. Maintenant, je vais passer la parole à Francisco Arias. Merci. Francisco Arias au micro. Je voudrais faire une mise à jour sur la finalisation de cette phase. Je préfère la version courte, le LGR de racine IDN, la procédure LGR racine IDN. Qu'est-ce qu'on fait? Comme tout le monde le sait, les niveaux DNS, nous aimerions
avoir quelque chose qu'ils pourraient reconnaître afin qu'ils utilisent leur propre système d'écriture. Mais on devrait clarifier que ce n'est pas chaque mot qui devrait être disponible à être utilisé dans un TLD. Par exemple, donc IDNA exige des règles à être définies afin d'identifier ce qui est permis dans le registre. Et dans ce cas, nous parlons des racines. On n'est pas habitué à le voir, mais c'est un autre registre. Une autre chose qui est importante à dire, c'est que les étiquettes racines ne seront pas héritées. Imposés et ne seront pas affectés. Donc, ne seront pas affectés et seront hérités. Donc, c'est très difficile de donner une définition spécifique dans un rapport intégré qui est le résultat de la seconde phase de ce programme. Et en fin de compte, quelques codes points qu'on peut considérer comme par les usagers de ce système. Et le meilleur exemple, donc, jusqu'à présent, c'est le chinois. Les équivalents entre simplifié et les caractères traditionnels chinois. Donc, l'utilisation d'étiquettes variantes. Nous devons probablement éviter l'allocation de TLD variantes IDN afin de aux concurrents, compétition. Pourquoi le faire? Pour des raisons de sécurité. On ne veut probablement pas que des entités en concurrence aient des strings alloués qui sont considérés pour les usagers de ce système. De notre côté, on veut permettre à l'allocation de certains de ces TL des variants IDN aux candidats afin qu'ils desservent mieux la population d'usagers. Donc, le LGR IDN définira les variants de n'importe quel code point qui seront permis dans la racine et leur disposition possible. Cela veut dire que le string résultant peut être alloué ou qu'il a été bloqué, donc personne ne peut l'avoir. Donc on garde ceci à l'esprit pour ce projet. Nous développons cette procédure afin de populer et d'entretenir le LGR racine IDN. Cela dit, le LGR racine contiendra tous les codes points qui seront autorisés pour les TLD IDN dans la racine. Pour les TLD IDN. L'idée est de fournir autant de couverture possible pour inclure tous les systèmes write-in, mais bien entendu aussi, il faut ne pas oublier que nous devons minimiser le risque à la zone racine puisque c'est une ressource partagée qui est partagée entre tout le monde dans l'Internet. Également, comme objectif, ce serait d'automatiser autant que possible le processus selon lequel une candidature pour un variant peut être gérée. Au cours de l'élaboration de cette procédure, nous créons une série de principes qui seront suivis par, comment puis-je dire, par l'IAB. L'IAB est le board d'architecture Internet. Comment le formuler? L'Internet, c'est le sage de l'Internet du point de vue technique. Et il nous oriente sur ce qui devrait être considéré lorsqu'on agit des codes points à la racine, des points codes. Et il y a cette série de principes qui sont définis ici. Je n'ai pas l'intention de passer tous ces principes en détail ici. Peut-être un de ceux-ci qui est le principe général dont nous tenons compte, qui est le conservatisme. Donc, nous voulons être du côté de... Nous avons des doutes au sujet de la sécurité de ce code point, par exemple. Donc, nous tenons compte de tous les principes différents dans les principes IAB. Le conservatisme prend place, prend priorité. Donc, en parlant de cette procédure, la procédure tient compte de deux types différents de panels. Les panels de génération en haut de ce diagramme et un panel d'intégration. L'interaction entre ces différents panels est ce qui produira un LGR racine unifié pour être utilisé dans les applications .idntld. .idntld. Les panels variantes, c'est juste un. C'est un par système d'écriture. Donc, par exemple, vous avez un panel de génération pour peut-être le script arabe et un autre pour le CGK ou peut-être il y en a un pour le japonais. Ça doit être encore défini et cela dépendra de l'orientation par rapport à du panel d'intégration. J'expliquerai plus tard l'intégration de tous ces différents panels. Ici, j'essaie tout simplement d'illustrer l'idée de la manière dont fonctionne le processus. Le panel de génération proposera quelque chose au LGR racine et les panels d'intégration analyseront ces propositions et prendront en considération les principes IDN et ensuite le mandat de ICANN pour assurer la sécurité et la stabilité de l'Internet, surtout le DNS, décidera s'il va rejeter ou accepter la proposition du panel. Donc le point intéressant ici, c'est qu'il y a un consensus entre les panels qui doit être obtenu avant qu'il puisse être ajouté. Donc, c'est conforme avec le principe de conservatisme mentionné auparavant. Peut-être une autre chose qu'il vaut la peine de mentionner est que pour être membre des panels, il faut être, les membres sont indépendants. C'est n'importe qui a participé dans notre panel de génération ne peut participer dans un panel d'intégration et vice-versa. Donc le panel de génération, ces panels, nous attendons à ce qu'ils soient composés de bénévoles, des communautés respectives qui soient intéressées à avoir des variants dans la racine. Donc, ils élaboreront les règles qui limitent leur système d'écriture uniquement. Ils n'analyseront pas le Punicode dans son ensemble, juste un système d'écriture qui les intéresse. Et ils produiront, disons, un sous-groupe de LGR Racine à partir de leur point de vue. Ces propositions iront au panel d'intégration. À part le fait d'avoir des bénévoles dans ces panels de génération, j'aimerais dire qu'Aiken fournira également des experts en cas de besoin. Par exemple, si le panel de génération est nécessaire, il lui manque une expertise spécifique, disons Unicode ou IDNA, DNS ou autre, alors ICANN fournira cette expertise afin que le panel de génération, la proposition de panel de génération soit aussi forte que possible. En passant au panel d'intégration, il s'agira juste d'un seul panel et ce panel consistera d'experts indépendants sur les points, les domaines suivants, DNS, IDNA, Unicode et linguistique. Ils seront chargés d'accepter ou de rejeter la proposition provenant des panels de génération. Et comme cela dit auparavant, il doit exister une entente entre le panel de génération et le panel d'intégration avant que quelque chose puisse être accepté. Le panel d'intégration se chargera également d'intégrer les propositions en provenance des différents panels de génération. Pour en un seul LGR, racine, IDN unifié. Et bien sûr, ils devront prendre en compte le mandat d'ICANN d'assurer la sécurité, la stabilité et la fiabilité de la zone racine DNS. Autre chose qui est importante, c'est que les décisions au sein du panel doivent être prises à l'unanimité. Tous les membres du panel doivent être d'accord avant que quelque chose soit accepté ou rejeté. Donc, le résultat de cette procédure pour le LGR, c'est le répertoire pour la racine. Donc, la liste des points code qui est autorisée pour les IDN. Un autre volet est que il y aura des super répertoires à l'intérieur du grand répertoire pour la racine. Cela est généré par syntaxe. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des points code qui disposent de plus d'un tag. Vous pouvez avoir, par exemple, un caractère Han, un caractère chinois qui ont le tag pour le CGK, par exemple, mais également le japonais devrait, en cas de besoin, chacune des applications, quand on fait on postule pour un TLD, ils devront sélectionner le super répertoire qui les concerne, qui s'applique à eux. Donc, si c'est un candidat japonais, par exemple, ils devront sélectionner je postule pour ce TLD en tant que japonais à partir du sur-répertoire japonais. Donc, l'étiquette devra appliquer postuler pour les étiquettes. Tous les points codes dans cette étiquette devront être contenus dans le code point code du super-répertoire. Et une autre chose importante à mentionner, c'est que toute l'étiquette devra être bien formulée. C'est important, spécialement pour ces systèmes d'écriture qui, disons, sont plus complexes, tels que Devanagari, qui est utilisé en hindi, où les règles spécifiques au sujet portant sur ce qui peut exister et dans quel ordre. Il y a des règles spécifiques là-dessus. Et dans le LGR Racine IDN, à enregistrer du soutien pour ceci. Donc, j'ai mentionné les super répertoires, mais je devrais clarifier que les variantes seront exactement les mêmes. Peu importe si que le super répertoire, le tag super répertoire que, dans lequel vous êtes sur votre candidature. Cependant, cette position est autorisée pour vos variantes qui peuvent différentes en fonction du super répertoire que vous, pour lequel vous appliquez. Et j'ai un exemple ici qui montre que, à quoi je fais référence. Donc, le résultat peut être double. Cela, il peut être bloqué. Cela veut dire que le string résultante ne peut être actif dans le DNS, ne peut être alloué à personne, ou il peut être alloué. Cela veut dire qu'en fonction de quand d'autres procédures sont terminées, qui devront être définies, la variante pourrait être activée, allouée et activée dans le DNS selon les règles. D'autres règles qui ne font pas partie de la procédure LGR racine. Et le résultat est bien sûr que c'est lisible par la machine pour un traitement automatique. C'est un exemple que nous avons ici. Et je ne vais pas revendiquer, bien sûr, dire que je m'y connais dans le système d'écriture. Quelqu'un d'autre a dit que, par exemple, l'a dit pour moi, mais l'idée ici, vous avez une string en caractère hand qui compose cette string et les deux points code ont, désolé, un de ceci, celui à droite, et je ne pense pas qu'il y ait un pointer ici. Celui à droite, 767C, a des variantes. Et si vous postulez pour la première partie en haut, voyons si je peux utiliser. Non, j'ai un autre pointer ici, désolé. Le premier exemple de candidature qui a le tag ZH, qui est chinois, dispose d'une variante qui est allouable, celui qui est montré en bleu, alors que les trois autres variantes sont bloquées. Cependant, si vous postulez pour la même string, ficelle avec le tag en japonais, tous les quatre variants seront bloqués. La raison pour cela est que peut-être ces variantes ne font aucun sens pour être utilisées en japonais. Et comme je l'ai dit, je ne revendique pas être un véritable exemple. Donc ne me tuez pas, ne m'en voulez pas. Pour continuer, pour avoir la première version du LGR racine IDN, sachez que je dis que la première version, la première divulgation va être un processus dynamique et qu'il y aura plus d'une version. Ça va être actualisé de temps à autre puisque nous avons plusieurs systèmes d'écriture qui viennent et expriment leur intérêt à être intégrés dans la racine. Donc la version initiale du LGR racine, nous pensons, seront fournies une fois pour toutes. Et cela dépend du panel d'intégration. Une fois qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont convaincus qu'ils ont des panels, de ce qu'ils ont en provenance des panels de génération, cet influx d'informations des panels de génération suffit afin de tenir compte pour penser qu'il n'y aura pas de conflit plus tard et qu'il y aura plus de systèmes d'écriture ajoutés à LGR racine. Bien sûr, il y a une dépendance sur le comité. Ça veut dire que ça dépend des panels de génération. Plus ils sont formés, plus tôt la version initiale de LGR racine IDN sera formée. Je donne le microphone à Steve. Steve Cheng, deux questions.
Nous avons examiné l'application de l'utilisation de l'utilisateur, l'expérience d'utilisateur dans les variants actifs. Nous avons focusé sur les problèmes d'étiquetage de variants. Quand vous regardez à droite, ce sont les labels IDN. Et le cercle sur la gauche, c'est vraiment l'intersection des trois. C'est l'intersection des trois cercles sur lesquels nous mettons notre focus. Nous reconnaissons qu'en tant qu'utilisateur final, vous ne faites pas la distinction. Donc, nous considérons que ces applications, bien sûr, les variants ont été déployés au deuxième niveau dans couple de registres. Dans l'étude, nous voulions documenter quelles étaient leurs pratiques et ce qu'ils avaient appris. Cela est documenté dans le rapport. Et finalement, ce rapport essaie de trouver un équilibre pragmatique entre les attentes des utilisateurs et la mise en place sécure et consistante et régulière. Cela peut être deux choses aux extrêmes. Quand nous parlons de l'expérience des variants au deuxième niveau, nous vérifions certains CTTLD et nous sommes très contents que CTLD nous fournisse des réponses. Les réponses que nous avons à de haut niveau, ce que nous retenons à haut niveau sur cette diapositive, ce sont les pratiques qui convergent. Et certaines de ces pratiques montrent des différences, probablement à cause de la nature du script, par exemple. Elles convergent. Où elles convergent, c'est là où elles traitent des variants comme une unité automatique pour l'enregistrement des données. Nous voyons donc la convergence à cet endroit. Où il y a une différence, c'est par exemple dans la communauté chinoise, le choix dans les variants actifs, c'est peut-être le vieux 1 simplifié et le 1 plus traditionnel, le choix d'utilisateur 1 plus traditionnel, alors que dans la communauté arabe, la distinction ou les variants préférés n'est pas aussi forte que dans la communauté chinoise. Comme Francisco l'a dit, Le P2N1 commence avec un ensemble de principes IDN. Je pense qu'avec cette étude, nous essayons d'articuler un ensemble de principes, de points de départ pour des TLD variants actifs. Et ces principes sont générés par les meilleures pratiques courantes, aussi par des grandes lignes des directives pour les utilisateurs. Nous en avons 7, la minimalité, la sécurité, l'équivalence, la prédictabilité, la consistance, la gérabilité et la facilité d'utilisation. Dans l'intérêt, nous avons un délai de temps, donc je ne vais pas rentrer dans ces principes en détail. Je voulais souligner certains de ces principes. Vous savez, il y a des termes, ils sont définis comme des certitudes. Elles sont utilisées plus ou moins, vous savez, où il y a la demande. Ces principes devraient être. Mais cela veut dire que nous reconnaissons qu'il existe des circonstances où certains de ces principes ne fonctionnent pas. Et nous voulons que ce soit la meilleure pratique. Et quelqu'un qui essaye d'appliquer cela, cette notion de « devrait » doit aussi utiliser en tant que première partie en disant « essayez cela en premier ». Et pour examiner l'impact, nous avons catégorisé les utilisateurs en 3 catégories. Les utilisateurs finaux, ceux qui utilisent les variants, les utilisateurs de registration et les gérants. Il y a plus de... ils sont plus traditionnels que dans la sphère ICANN, les registrants, les registraires. Et finalement, je pense qu'une des contributions de ce rapport, c'est de parler de la communauté technique. Vous savez, en rapport avec ceux qui font face avec le diagnostic de ces variants. Ces variants activés au plus haut niveau et au deuxième niveau ont des implications pour des parties variées de la communauté. Les problèmes sont identifiés en 3 catégories, l'utiliser des variantes, la gérance de l'enregistrement, et la configuration et les diagnostics. Je pense qu'il y en a un total de 28 ou 29. En tout, finalement, je vais passer vite, rapidement, sur le focus que nous avons mis sur les recommandations. Les recommandations sont basées sur les principes d'expérience de l'utilisateur. Et c'est ce que le rapport va articuler. Et nous avons les informations qui viennent des pratiques de variantes IDN actuelles. Elles sont vraiment dirigées vers quatre audiences, les CAN, le registre, les registraires et la communauté technique. Je vais souligner quelques-unes de ces recommandations. Mais en notant que chacune de ces recommandations que nous articulons, nous réarticulons quelle est vraiment cette recommandation et vous fournissons des détails sur chaque recommandation. Nous allons donc nous invitons à regarder le rapport avec la liste complète des recommandations. En premier, recommandation pour envers la ICANN est de recommander à la ICANN de mettre en place un processus bien défini et conservatif, un processus d'allocation des variantes TLD très conservateur et bien défini, en reconnaissant que activer les variants apporte des impacts dans des parties variées de la communauté et l'approbation des variants TLD ne devrait pas être automatique. Elle ne doit pas être automatique. Il faut démontrer. La variante TLD doit être allouée à la même entité et toutes les demandes de l'applicant, de l'application, de la poste, elles doivent être rencontrées. Toutes les requêtes doivent être rencontrées. Ce sont donc les exemples des choses que nous articulons dans notre rapport. La deuxième recommandation vers la 15, c'est de. Comme Francisco qui nous a donné une présentation sur les LGR, j'étais vraiment une pièce centrale. Là, nous voulons rajouter à cela qu'il faut qu'on s'assure quand le LGR est créé, qu'il soit maintenu dans un repositoire et qu'il doit être disponible pour les utilisateurs et qu'il doit être facile à processer, qu'il doit être processable. En sachant cela, le LGR ne doit pas être seulement utilisé pour déterminer les variants, mais qu'il doit aussi avoir d'autres utilisations, par exemple par les développeurs d'applications et les autres, et qu'il doit être donc mis en place dans un format qui soit facile à procéder,
à traiter.
Il faut aussi développer un LGR d'IDN simple et régulier pour la zone racine. Le LGR, vraiment, quand il est développé, il a un répertoire de caractères, de signes. Et aussi, qu'est-ce qu'on veut dire par minimum simple et régulier? Cela veut dire que le minimum nécessaire pour une communauté d'un langage, d'un script donné, n'inclut pas des scripts dans le URCH1, en code URCH1, URCH, minimalement utilisé par une communauté d'un script donné. Par défaut, s'il y a un consensus qui est atteint sur un point de code donné, la décision de défaut doit laisser le point code et le point code doit être ajouté au niveau du script. Pour les variants, le rapport recommande que les variants doivent être basés sur la considération de la sécurité et sur les communautés significatives, les besoins significatifs des communautés. Des exemples, il y en a dans le rapport que je vous invite à lire. Est-ce que nous pouvons avancer les diapositives, le menu des diapositives? Je ne veux pas que l'audience. Je voudrais que l'audience voit cette. s'arrête sur cette diapo et puisse jeter un œil. Le prochain ensemble de recommandations est dirigé vers les registres qui offrent les IDN pour ces scripts qui ont des variances. C'est très similaire. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'avoir ce genre de pratiques à la racine, les meilleures pratiques au niveau de la racine. C'est plutôt quelque chose qu'on doit faire, mais au niveau des registres, ce sont les recommandations des meilleures pratiques. Par exemple, les enregistrements, les candidatures de variants doivent être initiées par les registrants, ce n'est pas automatique, et les variants sont par défaut. Donc, il faut appliquer les mêmes principes de conservatisme. Les variants sont enregistrés. Il y a des variances pour les mêmes. Aussi, les requêtes pour les étiquettes, les labels sont aussi appliqués aux variants. Ils doivent être traités comme une unité automatique. Prochaine diapo. On va passer à d'autres recommandations pour nos registres. Et comme nous n'avons pas le temps, je vais passer aux recommandations pour les registrants. Une des recommandations pour le registrant, c'est d'étendre les systèmes de la linguistique et les supports techniques aux variants IDN pour les registrants. Parce que c'est eux qui sont l'interface avec les clients. Ils doivent avoir un support pour pouvoir prioriser et faire les mises à jour et les comprendre, sélectionner et les comprendre, et comprendre les mises à jour. Nous avons aussi nous assurer que les prix sont bien compris et les implications de services soient bien compris. Le niveau d'implication de services soit bien compris. La dernière catégorie de recommandations, c'est pour la communauté technique. C'est un domaine dans lequel c'est probablement un externe de l'influence d'ICANN. Nous voulons parler de ces problèmes et être proactifs et nous invitons la communauté de travailler ensemble pour trouver des solutions. Ma recommandation est basée sur les requêtes qui ont été articulées tout à l'heure pour les développeurs pour qu'ils puissent considérer d'améliorer du logiciel pour l'administration et la gérance des variants. Et voilà, et nous avons donné certains exemples d'ailleurs dans le rapport. Le logiciel qui cible les utilisateurs finaux de l'Internet, par exemple les web browsers, les emails, les clients emails et les systèmes opératoires, devrait supporter les variants pour étendre et pour assurer une expérience positive de l'utilisateur final. Pour l'IDN lui-même a besoin de beaucoup s'améliorer. Les attentes ne devraient pas être aussi hautes, mais il y a beaucoup de travail à faire vis-à-vis de la communauté et nous devrions travailler ensemble pour pouvoir adopter les IDN. Et la variance, c'est fait partie de cela. C'est ce que nous recommandons. Ce sont les recommandations. La liste complète est dans le rapport que nous avons publié en mars. Nous avons consulté, nous avons fait des PDP et des webinaires durant les meetings ICANN. Nous avons fait des entrevues avec les opérateurs, interroger les opérateurs et comme d'habitude, nous voulons plus de suivi sur ce rapport, des informations. Nous avons besoin d'informations additionnelles. Maintenant, nous allons laisser ma collègue Naila de parler du prochain sujet. Naila?
Oui, merci beaucoup, Steve. Très bien, donc Naila Saras au micro. Donc nous avons eu deux présentations. Et après ces deux rapports qui ont été postés en mars, nous revenons un petit peu en arrière. Si vous connaissez, c'était les issues intégrées, le rapport sur les issues intégrées, les problèmes intégrés, c'était la phase 2 du programme. Et il y avait 8 points que nous devions mettre en œuvre. Dont la prochaine étape sera donc de mettre en œuvre ce dont Steve et Francisco ont parlé, donc le LGR Racine et l'analyse sur l'expérience de l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné le nombre du projet et parlé que c'était le point 2 de ce projet. Il y a des numéros de projets qui sont donnés. Nous avons établi ces projets, nous sommes dans la phase 2. Donc, pour le 2.2, je vous réfère à ce qui a été dit par Francisco et prenez en compte les attentes et l'expérience des utilisateurs, comme cela a été débattu par Francisco. Donc, au point 2, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous allons devoir avoir un modèle d'intégration, un panel pour le modèle d'intégration. Nous allons nous lancer tout de suite avec ce panel pour l'intégration qui va nécessiter l'expertise sur un tout petit groupe. Hein. Vous verrez le rapport. Un tout petit groupe d'experts, de véritables professionnels de la question du DNS, de l'Unicode, problème linguistique, donc l'IDN et le DNS, ainsi de suite. Nous avons des consultants. Et donc, vous avez le panel d'intégration, le panel qui est l'arbitre du LGR. Nous avons ses consultants et nous avons le panel pour la génération. Le panel d'intégration doit également effectuer son travail d'installation initiale. Et tout cela est souligné, bien expliqué dans le projet 2.1. C'est ce dont a parlé Francisco. Nous allons devoir communiquer avec les différentes communautés pour qu'ils forment leur panel générationnel. Et c'est assez similaire à ce que nous avions fait au début du programme avec des études de cas. Et nous avons besoin véritablement de tendre la main à toutes les communautés, de communiquer. Et un élément important ici, c'est que le reste du travail dont nous avons parlé pour l'avenir dépend véritablement de ces panels mis en place. Donc tout cela est fantastique, mais tout est lié. Et chaque panel est en rapport avec les autres. Donc le staff va nous aider, le personnel va nous aider à soutenir tout ce travail avec des lignes de conduite. Tout sera rendu disponible par l'intermédiaire de sites web, par toute notre infrastructure, pour soutenir donc le travail des panels génération. Et, oui, je me demande si j'ai tout dit, Francisco. Je crois que tu as beaucoup parlé déjà de ces panels intégration et génération, donc je crois que j'ai à peu près tout couvert. Donc ça, c'était le projet 2.2. Donc le projet 7, Denise va en parler un petit peu. Nous allons donc dans... Après la description de Steve sur l'utilisation des utilisateurs, ce que nous devons faire, ces recommandations, ont trait au registre registraire, registrant. Nous devons travailler avec toutes les communautés et avec les commissions consultatives ainsi que les organisations de soutien pour que cela soit mis en œuvre, cela soit exploité, et voir comment fonctionne cette politique. Donc, une nouvelle fois, une enquête sera faite sur l'expérience des utilisateurs. Nous devons mettre à jour le guide, le manuel des applicants, des dépositaires de dossiers pour les CCTLD, pour l'IDN. Toutes ces documentations doivent être revues. Donc, cela s'applique à ces deux points. Et je crois que ce matin, nous avons parlé de la définition dans nos manuels des processus commerciaux, comment nous allons gérer les variances, les différentes applications qui ont été soumises, et nous allons poursuivre ce process. Projet 8, pardon. Une fois que le guide du dépositaire de dossier et que nous ayons bien analysé les expériences aux utilisateurs, nous allons devoir travailler dans le cadre des systèmes ALCAM, tous les processus, pour être en mesure de gérer les demandes et travailler au niveau des variances. Je crois qu'il y aura toujours à ce niveau-là l'identification de toutes les modifications effectuées et apportées. Et quoi d'autre? Eh bien, un travail important également pour la troisième phase dont nous avons parlé, LGR, les outils LGR. C'est un outil qui définit les spécifications pour les listes de ces points codes. Je crois que ça fait 6 mois qu'on y travaille. Il y a une ébauche de documents qui est en existence et nous avons une liste de publipostage. On peut vous envoyer donc cela. Donc Kim est la personne qui est responsable de cela. Donc il pourra intervenir s'il le désire. Et quoi d'autre? Ah, petit problème pour faire avancer nos transparents. Je crois que nous n'avons plus que le calendrier dont nous devons parler. Oui, vous avez le calendrier. Oui, vous voulez que j'aborde cela? Oui, quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, avancer le transparent. Petit problème technique. Ah, voilà. Voilà le calendrier qui apparaît à l'écran pour la phase 4 du projet. Eh bien, nous avons 2013, nous sommes en avril 2013, nous allons avoir la mise en œuvre du projet 2.2, panel génération règles de procédure. Ça, c'était défini en 2 points, donc panel intégration, génération, et ainsi de suite, etc., etc. Et le projet 7, toujours au mois d'avril, mise à jour pour les nouveaux GTLD et le programme des CCTLD et de l'IDN, donc, mise en œuvre de ces modifications, ce qui va se faire dans l'avenir proche, d'ici 1 an. Dans 1 an, au milieu de l'année 2014, le process pour les variances IDN, TLD, eh bien, nous pourrons passer à la phase de délégation. Donc, on espère qu'avec tout le travail que nous effectuons, nous serons en mesure de tenir le calendrier. Donc, beaucoup de choses qui dépendent, évidemment, des étapes précédentes. Donc, on est optimiste hein, quand on dit le milieu de l'année prochaine. Et donc, je crois que j'ai à peu près tout couvert par rapport à ce qui m'était imparti. Donc, nous serons bientôt prêts à répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup. Deux questions de nos participants. Combien de dossiers de demandes actives sont affectés par ce programme? C'est Mme Williams qui nous pose cela à distance. Il y a des numéros de prioritisation. Qu'en est-il à ce sujet? Est-ce qu'il va y avoir un retard à cause de ces variances? Donc, la première question qui a été combien de dossiers de demande va être impacté par le programme? Moi, je dirais tous les IDN, tous les dossiers de demande IDN, parce que, en ce sens, non pas pour l'évolution des strings, des chaînes, mais en termes des variances, potentiels de variances qui existent, dans notre manuel, dans le manuel du dépositaire de dossiers de demande, eh bien, nous avons beaucoup d'informations que vous pouvez trouver. Il y a une note d'information, mais ce programme est donc celui qui n'est pas encore finalisé. Une fois qu'on aura les IDN, on aura un mécanisme donc qui nous permettra d'identifier les variances pour toutes les chaînes. Donc, pour toutes les racines LGR. Voyons un petit peu la deuxième question. Est-ce que je l'ai bien saisi? Donc, est-ce qu'on attend une demande, un retard dans la mise en place? Eh bien, je crois que je regarde un petit peu mes collègues pour voir si je dis des choses exactes. Pour les IDN, est-ce que les résultats sont déjà là, n'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez m'éclairer un petit peu à ce niveau? Oui, oui, vous me demandez si toutes les résultats ont été publiés, non pas encore. Uniquement celles qui sont prioritisées. Il y a des applications IDN qui n'ont pas encore été évaluées. Merci. Donc, cela n'aura pas un effet. Nous ne pensons pas qu'il y aura trop de retard. Donc, Renalia veut prendre la parole au micro. Oui, Renalia Abdulrahim. Je suis de AtLarge, la commission consultative AtLarge, et j'ai quelques questions en rapport avec la mise en œuvre des règles pour la génération label. Si le board approuve ces recommandations pour les procédures demain, combien de temps faudra-t-il? Est-ce que ce sera rapide pour avoir un panel d'intégration formé? Et êtes-vous toujours inquiet du nombre d'experts, de consultants qui seront en mesure de faire partie du panel? Et également, lorsque vous dites que la première version de l'IDN-LGR sera publiée après avoir des systèmes d'écriture, un ensemble complet de systèmes d'écriture, vous voulez dire avec des scripts, des langues avec des scripts, ou bien vous avez besoin de plusieurs sets, comme CGK dans la racine et grec cyrillique latin ailleurs. Donc, merci de répondre à cela. Donc, Renalia. Oui, combien de temps ça va prendre pour le panel d'intégration, dit Naila Saras? Eh bien, on a un programme et ce travail se fait dès que l'on va revenir chez nous de Beijing. Et donc, je crois que on aura le panel en place dans les mois à venir, et je comprends bien l'urgence qui existe à ce niveau. Et mes collègues pourront peut-être mieux répondre que moi, mais dans les mois à venir, nous aurons un panel d'intégration en place, et ensuite 2-3 mois s'écouleront. Donc, vous avez parlé du vivier d'experts. Vous avez tout à fait raison. On n'a pas beaucoup d'experts à ce niveau dans le monde. Ce n'est pas facile de les trouver. Ils ne sont pas nombreux pour participer à ce panel. Mais nous avons été en mesure d'utiliser néanmoins les meilleurs des meilleurs, les meilleurs que nous puissions trouver. Néanmoins, donc, l'expertise qui existe, je ne crois pas qu'on pourra trouver assez d'experts. C'est un point qui... Mais non, je pense qu'on pourra trouver assez d'experts. Nous allons faire le maximum en tout cas. Oui. Oui, vous m'entendez? Je m'appelle Kim Davis et les règles pour le label génération, d'une manière idéale, devrait pouvoir garantir qu'on n'ait pas à mettre à jour la compatibilité, qu'on n'ait pas de problème de compatibilité. Mais ce que vous voulez essayer de faire, c'est d'avoir des règles pour le label génération qui ne soient pas remises en cause par des mises à jour successives et à venir. Donc, très clairement, ça doit être limité. On a des risques d'incompatibilité et nous devons examiner, la seule manière d'examiner cela, c'est les problèmes qui peuvent se poser. C'est un cas idéal, c'est dans un cas idéal. Nous devons véritablement essayer. Nous devons véritablement essayer de prendre une famille de scripts, une seule famille de scripts, quelle qu'elle soit, qu'elle soit prominente ou intéressante, c'est comme ça que ça va fonctionner. Le ASCII fonctionne de cette manière. On ne veut pas avoir le risque au niveau des mises à jour qui pourraient faire s'écrouler le système. Nous avons les différents formats, nous avons les différents outils. J'ai déjà mentionné dans la présentation qu'il y a un grand intérêt pour l'évaluation LGR, pour sa publication à l'extérieur de l'ICANN. Si c'était au sein de l'ICANN, ce n'était pas aussi critique, mais je crois que ça sera disponible pour que les personnes puissent évaluer des chaînes avec des variances éventuelles. Et pour toutes ces raisons, il est extrêmement important que nous puissions avoir assez de scripts que nous soyons en mesure d'avoir les spécifications et les critères très précis. Et une fois que nous arriverons aux propositions pour avoir un LGR, une mise à jour LGR pour un script particulier, eh bien, nous n'aurons pas à revenir en arrière. C'est très important qu'on n'ait pas à revenir en arrière. Donc, je vais m'exprimer en mon nom personnel et il y a des personnes dans la salle qui ne sont pas obligatoirement des experts qui s'intéressent plus aux politiques, aux calendriers, aux affaires. Et ma question est très simple. Pourquoi juin l'année prochaine? J'aimerais qu'on comprenne le fait que cette semaine, nous avons entendu dire que ces nouveaux GTLD devaient avancer rapidement. On voit un nouveau contrat à amender avec les registres. On y travaille jour et nuit. On essaye véritablement d'arriver à un consensus. C'est difficile. Ça ne se passe pas toujours très bien. Et nous voyons de nouveaux contrats. Nous comprenons bien que c'est complexe, mais ce groupe de travail, me semble-t-il, a été mis en place depuis longtemps et je comprends bien que vous avez déjà fait beaucoup de travail. J'en suis conscient et je vous félicite de cela. Mais pourquoi le mois de juin? On comprend que vous êtes sous pression, mais néanmoins, nous devons avancer. Je sais que vous avez vu la publication 108, vous connaissez la chaîne 106, vous connaissez les variances, vous savez à qui parler, vous savez que la communauté CCTLD est en mesure de vous aider au niveau de la synchronisation. Donc vous connaissez bien ce programme de variance. Donc c'est la question que je pose. Pourquoi ces délais? Pourquoi le mois de juin l'année prochaine, ce qui me semble bien éloigné? Donc, veuillez s'il vous plaît réagir par rapport à cette interrogation. Donc, j'apprécie beaucoup l'intérêt que vous avez pour notre travail, et pour les personnes ayant déposé des dossiers de demande de nouveaux GTLD, mais il faut bien comprendre que ce qui a lancé ce programme en 2010, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de délégation de variantes jusqu'à ce que les solutions appropriées soient mises en œuvre. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Et je crois que c'est une réponse assez simple que j'aimerais vous donner. Pourquoi le mois de juin? Eh bien, nous voyons le travail qui reste encore à faire et nous sommes arrivés à cette date parce que nous pensons que cette date sera respectée. Mais il y a le travail qu'on a fait au niveau interne à l'ICANN, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons, ce que nous allons faire, effectuer. Et il y a une autre partie, c'est la participation de la communauté. et le panel d'intégration également qui, pour travailler à la racine LGR, bien sûr, il n'y a pas de calendrier pour cela et ça dépend véritablement des avancées des deux côtés sur ces deux voies parallèles. Donc, nous vous comprenons un petit peu votre frustration. Et nous allons faire de notre mieux avec beaucoup de diligence. Nous allons œuvrer avec diligence pour que cela se réalise, mais pour s'assurer que nous ayons quand même une racine DNS sûre et stable. Merci, Francisco. Je sais que vous travaillez beaucoup, beaucoup à cela, mais une suggestion pratique que j'aimerais vous donner. Par exemple, les recommandations 6.1 devraient être placées, me semble-t-il, au niveau consultatif dans le système TAS, donc pour que les dépositaires de dossiers de demande reçoivent, savent moins quoi faire au mois d'août de cette année, se préparent un petit peu plus rapidement lorsqu'on aura les premiers IDN, les premiers 100 IDN TLD, par exemple, nous aurons 10 mois pour gérer ces IDN internationaux, ces noms de domaines internationaux. Parce que ce n'est pas dans nos contrats tout cela. Donc, vous nous mettez dans une situation commerciale difficile. On prend des risques commerciaux. Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous communiquer? Vous allez voir des registres dire au registraire, donnez-nous une avance. Qu'en est-il au niveau des fonds que j'ai engagés? Donc, on ne sait maintenant pas exactement quand l'ICANN va dédier les outils nécessaires pour les variantes et les dédier au registre, les remettre au registre. Donc, au niveau des activités commerciales, ce n'est pas facile. Il faut que vous compreniez bien cela. On a besoin de conseils à ce niveau. Merci beaucoup. Edmond, vous avez la parole. Francisco Arias, on a parlé d'Edmond Chung. Merci, Edmond Chung, oui. Et maintenant, avant de m'exprimer, j'aimerais dire que je suis à Beijing. Il y a 14 ans que je travaille aux IDN et c'était à Beijing. La première fois que j'ai travaillé aux IDN, c'était à Beijing. Alors j'aimerais dire que je suis très enthousiaste par le travail qui a été effectué et j'aimerais vraiment féliciter l'équipe pour ses rapports, tout particulièrement sur l'utilisation et l'expérience des utilisateurs. Je crois que le concept qui existe derrière tout cela, 14 ans d'IDN, 12 ans de variance. J'aimerais donc féliciter l'équipe ainsi que l'équipe de l'étude. Il y a une étude qui a été faite sur les langues, il y a une étude qui a été faite sur l'intégration. Également, donc, il semble que maintenant nous avons véritablement une fondation solide pour avancer et il me semble que l'on voit la lumière au bout du tunnel. Et vraiment, je crois que tout le monde devrait vous applaudir pour tout le travail que vous avez réalisé. C'est très apprécié de notre part. Mais maintenant, je vais poser ma question. Et l'étude sur l'expérience des utilisateurs 6.2.1, je m'en rappelle par cœur et il me semble que c'est extrêmement important. C'est pour cela que je pose cette question. J'espère, mais je veux m'en assurer, qu'il ne s'agisse pas, que c'est quelque chose de conforme avec les politiques CDNC et l'article 3743 en termes de variance préférée, et que l'implémentation que vous voyez aujourd'hui pour tous les registres, je veux m'assurer que 6.2.1 n'est pas en non-conformité avec ce que nous avons déjà. Merci Edmond. La recommandation pour, vous nous avez dit 6.2.1. Et c'est Steve Schenck qui a le micro. Eh bien, ce n'est pas automatique, ça, c'est initié par les registrants et les variances retirées par défaut. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, nous avons une approche très conservatrice du premier niveau au deuxième niveau en ce qui concerne l'activation de variance. Donc, pensez-vous que nous soyons en conflit avec les lignes de conduite DLC? Non, je voulais clarifier cela. Mais en ce qui concerne les inscriptions deuxième niveau, point China, point Asia, Asie, point, toutes ces mises en œuvre qui sont faites, tout particulièrement pour les Chinois, vous enregistrez votre domaine en chinois et vous avez une variante préféré chinois traditionnel ou pas, et ainsi de suite. Et c'est automatiquement conclu, et fondamentalement, c'est essentiel pour notre CDNC. Donc, je veux m'assurer que 10 ans d'expérience sont bien utilisés et que nous allons rester en conformité. Ce n'est pas notre intention de faire ceci. Absolument pas. Je crois que il s'agit là d'un retour d'information très intéressant que nous allons prendre cela en compte lorsque nous embarquons dans notre prochain projet. Mais j'aimerais demander peut-être à certains de mes collègues de réagir et de s'assurer que ce soit bien exact. Eh bien, moi, j'aimerais faire deux commentaires, dit Sarmad Hussein. J'aimerais faire deux commentaires. Premièrement, en ce qui concerne la recommandation pour les registres pour le deuxième niveau, ce n'est pas une obligation, c'est une éventualité. Nous allons clarifier cela dans notre document en tant que pratique préférée. Et deuxièmement, c'est une recommandation générique pour tous les scripts en chinois, CGK. Le contexte sera peut-être une différente politique, mais ce n'est pas applicable à tous les scripts, n'est-ce pas? Et donc, ce sont deux commentaires que j'effectue. Et bien entendu, votre observation est la bienvenue. Et il est tout à fait possible qu'il s'agisse là de critères. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Et dans le contexte du CJK, et la communauté donc peut intégrer cela. Cela peut être inclus dans la mise en œuvre. Oui, donc oui, c'est très encourageant d'entendre cela. Et une petite suggestion, néanmoins, lorsque nous travaillons aux lignes de conduite IDN IGAN, eh bien, nous avons parlé du japonais. Ça, c'est assez similaire. Il y a certaines exceptions qui doivent être à ce niveau. Mais pour l'ICANN, je serais beaucoup plus à l'aise si vous incluiez cela dans le rapport, parce que je suis presque sûr que cela va être utilisé pour d'autres objectifs. Et notre idée, c'était de mettre en œuvre les deux rapports et les différents processus. Et il me semble que, mis à part cette petite modification, ce petit ajustement, il me semble que ce sont de très bonnes recommandations, et j'aimerais les voir absolument dans le contrat, peut-être même dans le contrat des registres pour les personnes qui font des registres IDN, parce que ça doit être connu. Ces points sont importants, doivent être publiés, et ces pratiques doivent être encouragées, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais me remettre au fond de la salle, mais j'aurai sûrement d'autres questions d'ici peu. Merci beaucoup, Edmond. Je crois que peut-être nous avons des participants à distance. Oui, Wendy, une question de Liz Williams. En ce qui concerne les pratiques de l'industrie, comment cet engagement peut-il être intégré pour les prestataires de services techniques en ce qui concerne les nouveaux standards ICANN? Et j'ai vous voulez attendre la deuxième question, déjà gérer la première peut-être? Oui, alors, donc, ça dépend. Les services techniques, les prestataires de services techniques, comment vous définissez cela? Les meilleures pratiques, les principes qu'on a articulés, les recommandations qui ont été effectuées, donc dans le projet 7, vous savez, c'est un processus consultatif que nous avons eu, où nous allons mettre en œuvre ces recommandations. Donc, Lise, je ne sais pas, ça va être mis dans les contrats, dans les meilleures pratiques. Donc, la réponse est oui, mais je ne comprends pas très bien la question sur les prestataires de services techniques. Qui sont-ils? C'est au niveau du back-end ou pas? Et peut-être qu'on pourra clarifier les choses un petit peu plus tard. Oui, d'accord. Donc, nous avons une deuxième question de Lise Williams également. Donnez-nous un feedback sur l'expérience des utilisateurs dans le cadre des variances IDN. Est-ce qu'ils s'attendent à avoir un impact négatif sur les niveaux IDN? Est-ce qu'on est très tôt dans le processus, donc on n'est pas encore arrivé à la phase de délégation, donc qu'en sera-t-il une fois qu'on sera plus avancé dans le processus?
Ça va?
Oui, alors, oui, elle avait parlé des fournisseurs de back-end dans l'autre. Oui, excusez-moi, il faut que je lise un petit peu, c'est un peu complexe comme question. Oui, pour ces prestataires de services, nous avons des contrats avec les prestataires de services de registres, les opérateurs de registres. Donc, on travaille avec ces opérateurs de registres. Il me semble que c'est à eux-mêmes de sceller des contrats avec ces autres prestataires. Donc, pour la deuxième question, un impact négatif, les nouveaux registrants, mais par manque de variance, oui. Moi, j'ai cru comprendre la question un petit peu différemment. Si les variances ne sont pas déployées, quel est l'impact pour les registrants? C'est ça la question, en fait. Oui, eh bien, il y aura un impact, je crois. Oui, il y aura un impact, dit Steve Cheng. Et l'impact peut varier et dépendre de la communauté. Dans quelle communauté vous vous trouvez? Donc, pour le moment, il me semble qu'il n'y a pas de variance. Mais pour les variances de blocs, je crois que nous aurons pas tant de problèmes de sécurité que ceux-là qui se poseront. Parce que ça n'a pas été considéré et pris en question. Ils sont pratiquement bloqués. Donc, c'est peut-être une expérience négative pour certains des variances actives. Et il faut être bien conscient de cela si vous êtes un dépositaire de dossier de demande. Mais d'un autre côté, si vous équilibrez cela avec la définition d'un processus robuste, solide et cohérent, eh bien, on n'a qu'une seule racine. C'est donc une ressource que nous partageons. Et lorsqu'on fait des procédures, des politiques, des lignes de conduite, eh bien, il faut être conservateur lorsque l'on travaille avec une seule racine, avec une seule ressource. Donc, en prenant cela en compte, il me semble qu'il y a un équilibre nécessaire que l'on doit toujours trouver. Il y aura un impact, mais nous pensons que nous devons faire notre travail, nous devons avancer avec ce travail LGR, mais si le travail n'est pas terminé, n'est pas achevé, il y aura un impact négatif qui sera encore bien pire et potentiellement plus de problèmes de sécurité. Donc, c'est une réponse relativement longue. Peut-être, mais j'espère qu'elle est bonne. Oui, je m'appelle Mark Blanchett. Et Mark Blanchett. Et l'envergure de cette étude sur l'expérience utilisateur nous a indiqué qu'il y avait des variances IDN qui étaient activées. Donc on n'a pas véritablement travaillé à ce qui se passait lorsqu'il n'y avait pas d'activation des variances, parce que véritablement notre travail se basait sur ce qui se passait véritablement lorsqu'il y avait une activation qui était effectuée. Mikey O'Connor, et je dois dire que je suis un nouveau qui ne connaît pas grand-chose à cela. J'ai pris conscience de cela cette semaine. Donc, je vais représenter mes ISP, mes prestataires de services Internet. J'écoute cette conversation, j'essaie de lire tout cela, vraiment. Je viens de lire la section 5. Donc, croyez-moi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais j'aimerais savoir, de votre part, si vous pensez que vous êtes prêt ou pas à lancer ça dans le monde, parce que moi, je représente une organisation qui va prendre des appels alors qu'il semble y avoir tant de problèmes qui pourraient éventuellement se poser. Et je me demande si je devais dire à mes clients, attendez... Oui, je voulais vous informer, chers amis, que on a des problèmes de recherche, des incohérences. On ne pourrait même pas aller sur Facebook. C'est pas vous qui allez avoir les appels téléphoniques des clients. C'est moi. Alors, c'est prêt ou c'est pas prêt? Je suis désolé, mais je voudrais poser cette question. Ça m'inquiète un petit peu. Oui, merci, Mike. Oui, ce n'est pas prêt, c'est pour ça qu'on travaille à cela. On doit faire encore plus de travail, dit Francisco Arias, pour que ça soit prêt. Mais j'aimerais clarifier quand même quelque chose au niveau de ces variances. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est un terme lourd, très, très fort, chargé, et ce qu'on appelle dans les rapports certaines variances de fréquence moyenne peut-être, il y a deux noms. Et le fournisseur met en œuvre un mécanisme qui essaye d'avoir deux chaînes DNS, et quelle que soit celle qui est utilisée parmi les deux chaînes DNS, il y a deux noms pour cela. Donc, mais vraiment, d'une manière plus précise, ça fait partie du rapport d'intégration. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas bien. Mais nous parlons de la mise en œuvre de quelque chose de plus simple. Avoir des variances bloquées pour avoir moins de problèmes. Parce que beaucoup de personnes, pour beaucoup de personnes, ça prête à confusion. Il y a des implications sur la sécurité du système. Donc, nous avons donc des TLD qui sont bloqués, qui ne sont pas autorisés parce qu'il y a ces problèmes de sécurité qui se posent. Il y a des considérations pour des variances actives et l'expérience des utilisateurs devrait être satisfaisante avec une allocation à la même entité, mais nous nous attendons à ce que il y aura un effet miroir entre les deux espaces, si vous voulez. Donc, une nouvelle fois, on a parlé de ces deux noms qui sont gérés d'une manière automatique. Donc, si vous transférez ce registre à quelqu'un d'autre, il n'y aura aucune possibilité d'avoir une chaîne avec une partie, une autre chaîne avec une autre. Mais en termes des attentes, en ce qui concerne ces deux noms, ou de tout ce que nous utilisons dans ces deux noms, on ne sait pas exactement comment elles vont fonctionner et être gérées.
J'encouragerais d'abord de lire l'ensemble du rapport. Cela dit, dit Steve Chang, je crois que, comme a dit Edmund, le train est en marche depuis 14 ans, lorsque Mark Blanchett, lorsque nous avons lancé le travail à IDN, parce qu'une fois que vous mettez les langues dans des noms de domaine, alors vous allez avoir des appels de soutien. Peu importe ce que vous faites. Donc, blâmez-moi, j'étais coprésident du groupe de travail. N'envoyez pas les appels de soutien à mon intention, cela dit. Ne m'en les envoyez pas. Cela dit, mon opinion sur les support calls, les appels de soutien, la majorité des problèmes se rapportent au IDN, se rapportant au IDN en général, et non spécifiquement sur cela, sur ce qu'il parlait spécifiquement, n'est-ce pas? Maintenant, plus spécifiquement, nous avons certains CCTLD qui ont été déployés, des IDN, n'est-ce pas? Et certains ont déjà des variantes au second niveau, n'est-ce pas? Donc, ça a été déployé. Et c'est ici, c'est déjà là. Et c'est plus simple pour ces TLD parce que c'est spécifique à une langue ou à une communauté. Cependant, ils peuvent gérer leur, vous savez, leur portée. Ils parlaient de la racine des TLD, donc les impacts sont plus importants. Et du point de l'expérience, du rapport d'expérience de l'usager, que je vous encourage à lire, c'est le fait que nous tendons. Ce que j'essaie de. Non, je n'essaie pas de. Mike O'Connor, tout à fait juste, Mark Blanchett, mais nous essayons de dire pour plus tous les types d'usagers qu'il est difficile d'entrevoir qu'une règle puisse s'appliquer au second niveau différemment qu'au premier niveau et différemment au troisième niveau, n'est-ce pas? Cela est insensé. Un point de code où toutes les règles se rapportant à ce qui est valide à un niveau devrait l'être au même niveau. Ah, je pense que nous sommes d'accord. Donc, je parle français, donc j'ai moins de problèmes. Mais je crois que dans certains pays, il y a différentes manières d'écrire les mêmes strings. Donc, si une manière ne marche pas, et d'une autre manière, ça marche, donc il ne me semble pas que ce soit bien. Vous vouliez ajouter quelque chose, dit Francisco Arias? Oui, Asmus Freitag. Oui, je voulais. On est revenu à parler à propos des variantes actives encore, et je veux réitérer le caractère, combien il est utile. Les procédures LGR sont utiles et c'est pourquoi c'est tellement important de bien faire les choses. Également, la capacité à bloquer de grandes quantités de variantes. Vous pouvez penser aux variantes comme le type de collision directe entre étiquettes. Si deux les étiquettes ont la même variante, alors, elles ne peuvent exister en même temps parce que elles seront traitées. L'idée est que elles seront traitées par l'usager comme quelque chose d'identique, alors qu'en fait, elles ne sont pas identiques au niveau point. Et cela donne toutes sortes de possibilités d'abus. Donc, vous voulez filtrer ceci. Donc, on veut faire correctement le travail dont nous sommes chargés dans cette partie volet du LGR qui est quelque chose qui peut être automatisé et nous pouvons nous charger du suffrage, du filtrage des trucs qui peuvent être avec les scripts de connaissances ou de langage définis comme des collisions potentielles automatisables. Merci. Nous n'avons plus de temps. Il nous reste 5 minutes. On a Edmond. Et ensuite, une autre question à distance.
Let me just do one last...
Une dernière phrase. Ça a été vraiment très utile, dit Mikey O'Connor. Merci pour m'expliquer. Mais une manière de rester au plan de travail serait de... d'extraire ce rapport à un niveau de politique. C'est difficile à lire et je pensais qu'ICANN comprenait ce... Je croyais que je comprenais plutôt ce genre de type de choses. Mais pour le ISP typique, ce serait vraiment d'avoir une introduction de base à la terminologie et les problèmes. Un langage plus vernaculaire pour que les gens comprennent ce qui est important pour eux. C'est difficile. Il y a une recommandation dans le rapport là-dessus. Edmond Chang, Mikey, j'imagine que ce que Mikey disait, c'est que il parlait des petites personnes et pas des grandes personnes, dit Edmond Chang. C'est la petite politique et pas la politique clé, la grande politique clé. Et vous regardez ces choses, ces listes de questions, vous avez probablement trouvé une longue liste similaire lorsque vous parlez des nouveaux GTLD et de l'acceptation universelle de ceci, mais on n'ira pas là. Pour revenir à prendre d'autres questions, on n'a plus beaucoup de temps, je sais. Une est la génération de règles, la règle de génération d'étiquettes en termes de compréhensibilité. Je voulais faire le suivi avec Rinalia et Asmus. Si la communauté chinoise est prête, elle ne sera pas embêtée par d'autres communautés de script. Ce que vous dites est peut-être différent, donc je veux m'assurer que mes collègues chinois le comprennent. Ou bien je vous ai mal compris. Non, vous m'avez bien compris. Je pense, dit Asmus Freitag, je pense que je comprends votre intérêt et l'intérêt de la communauté chinoise à ce que ça fonctionne. Les attentes sont vraiment importantes et le temps de jusqu'au résultat est long et j'aimerais voir que quelque chose arrive à terme. Je pense que la meilleure chose est que ce que tout le monde peut faire, c'est que je pense que le langage chinois et la communauté du script Han, y compris le japonais, il y a des experts très évolués dans ce domaine et après avoir examiné le problème, qui ont déjà défini que la variante pourrait, après avoir défini l'environnement linguistique, ils sont allouables et ceux qui ne le sont pas, qu'ils ont vraiment une grande expérience de ce genre de choses. Donc, la meilleure manière de procéder aussi rapidement que possible pour activer la partie la plus lente de ce processus. Et la partie la plus lente de ce processus serait peut-être des panels de génération importants. Importants dans le sens que leur script touche des questions importantes qui peuvent ne pas avoir d'expertise, ne peuvent pas avoir de background et peuvent avoir l'équipement, l'institution nécessaire parce que ces scripts peuvent être compliqués même si les pays ne sont pas riches ou sophistiqués ou une forte pénétration d'ordinateurs et n'importe quelle aide que la communauté script chinoise, y compris le Japon et d'autres, pourraient faire pour faciliter certains de ces panels de génération qui traînent les pieds, serait très utile. Cela dit, bien sûr, et c'est très utile que le panel d'intégration puisse commencer avec un grand... avec une soumission LGR rapidement soumise et bien ficelée en provenance du panel de génération chinois qui pourrait, le panel de génération, le processus du panel de génération n'est pas nécessairement celui dans lequel rien ne se passe jusqu'à ce que quelque chose arrive. Vous savez, dans la boîte du courrier, ce qui se passe, c'est que les gens dans le panel d'intégration vont passer en revue beaucoup les trucs au moment où ils arrivent. Ce n'est pas seulement que la date de livraison pour le LGR dépend de travail très exhaustif. Mais ce qu'on a compris, dit, c'est que d'autres scripts ne vont pas nous empêcher dans ce processus, mais ce n'est plus vrai, dit Edmund Chang. Si ceux qui sont préoccupés par cette question, vous devez lever la voix. C'est pas que je veux absolument avoir raison, mais c'est une ressource partagée, donc c'est voilà le problème ici. Vous faites partie du groupe qui a mis sur pied le document. Si je peux dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, dit Francisco Arias, je vais y répondre. Je pense qu'on ne peut pas spéculer ici de ce qui devrait être fait ou pas. Je crois que c'est le panel d'intégration, une fois qu'il est établi. Donc je pense qu'on ne devrait pas spéculer. Ça devrait être d'un sens ou d'un autre. Ce n'est pas vraiment le moment de décider cela. Et on a une dernière question et je voudrais la prendre rapidement. Liz William, à distance, de la perspective des registres. Les nouveaux opérateurs doivent fournir des politiques d'enregistrement de noms pour les registrants qu'ils doivent les respecter. Donc, est-ce que les panélistes recommandent que de nouveaux opérateurs de registre IDN, disons, que l'enregistrement des noms de variantes au second niveau ne sont pas permis jusqu'à une telle date, une date X? Si vous voulez réserver votre variante, cliquez ici et nous allons vous offrir vos variantes. Fin de citation. Steve Cheng, merci Liz pour cette question. Vous posez une question pour le second niveau. Je pense que la procédure dans le rapport et notre concentration dans ce projet vraiment pour la zone racine. Donc, je pense que c'est le premier argument. Au second niveau, c'est vraiment la décision, ça revient c'est au registre de décider. Cela dit, je pense qu'une approche conservatrice est une bonne idée. Une des recommandations du rapport d'expérience de l'usager est d'essayer de voir, de promouvoir une consistance sur différents niveaux. Les registres de second niveau devraient considérer tenir compte des LGR pour la zone racine et utiliser une partie de cela et documenter les instances où vous déviez. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Merci. Edmund Chung, encore. Les prochaines étapes, il y avait un endroit où vous alliez revenir au CCNSO et GNSO. Je voulais comprendre comment cela se produirait. Et Naïla, Saras, je vais être rapide. Donc, ce n'est pas juste GNSO et CCNSO, c'est tout le SORC. Vous devriez voir, suivre la résolution demain, ce que nous demandons.
Nous attendons à ce que cela se passe rapidement. Il y a un délai, une date butoir qui est mise en place. Avec cela, nous fermons la session. Merci beaucoup.